Les marchandes de sable, malices et maléfices, conte de fantômes de Jacques Cassabois. Maritza et le vampire. C'était hier, au temps où l'on mesurait les distances en heures de marche, dans un village, au cours d'une veillée où les gens se réunissaient pour se parler et s'écouter, une grande assemblée où tout le monde se connaissait, où personne ne pouvait donc passer inaperçu. Ce soir-là, un inconnu était présent, un seul, grand, beau, et d'une pâleur qui faisait ressortir l'éclat de ses yeux sombres. Impossible de ne pas le remarquer. Les regards glissaient sur lui à la dérobée, s'interrogeaient de l'un à l'autre en haussement de sourcils silencieux. La coutume ici voulait que chacun fût libre d'entrer sans qu'on lui demandât de décliner son identité. Il s'était installé dans un angle de la pièce, à distance de ses voisins, et il n'avait pas réagi aux histoires qu'il entendait, ni sourire, ni hochement de tête, pas le moindre signe, rien. Sauf qu'il ne quittait pas des yeux la fille de la maison, Maritza, comme s'il était venu pour elle. Cela aussi, tout le monde le remarqua et l'intéressait la première. Il faut dire qu'elle méritait le déplacement. Elle était à elle seule une romance incarnée, un conte de fées, une tradition vivante avec des manières de reine qui faisaient oublier ses vêtements de paysanne. La réunion terminée, il se mêla aux participants qui rentraient chez eux et il disparut sans qu'on sache quelle direction il avait prise. On ne le revit pas. Puis, il réapparut sans crier gare, un jour que la veillée, après avoir tourné dans tous les foyers du village, revenait s'installer chez Maritza. Une nouvelle fois, il présenta le même visage fier et le même intérêt persistant pour la jeune fille. Celle-ci était troublée et sa gêne la rendait plus séduisante encore. Au fond, elle n'était pas indifférente à l'attention de ce garçon. Elle était même flattée, mais lorsqu'il la dévisageait, elle avait l'impression d'être enveloppée par un nuage de froid. Les semaines passèrent ainsi, marquées par les apparitions et les retours du mystérieux inconnu qui n'avait Dieu que pour sa belle. À la fin d'une soirée, il profita du brouhaha des gens qui se séparaient pour s'approcher de Maritza. Sans façon, il la prit par la taille et lui demanda « Est-ce que tu m'aimes? Je voudrais t'épouser. Accepte-moi pour mari. » Cette proposition si brutale, ses mains posées sur elle, Maritza se sentit capturée. Incapable d'articuler un mot, elle parvint à se dégager et courut se réfugier quelques maisons plus loin, chez sa tante, où elle arriva tremblante et essoufflée. Elle lui raconta l'assaut qu'elle venait de subir, l'empressement de l'inconnu et surtout le froid qu'il dégageait. « Quand il m'a saisie, j'ai cru que l'hiver prenait possession de moi », confia-t-elle en frissonnant. La tante écouta sa nièce avec sérieux. Elle était sage-femme. Elle aidait les mères du village et des villages voisins à mettre leurs enfants au monde. Elle connaissait la vie, des signes qui accompagnent une nouvelle âme lorsqu'elle prend corps. Elle réfléchit et s'efforça d'apaiser la petite en raisonnant. « Commençons par le commencement, » dit-elle. « Toi d'abord, comment le trouves-tu? Que penses-tu de sa demande ?»«
Je ne sais pas, » répondit-elle en baissant les yeux.
« De toute façon, on n'épouse pas un inconnu, et tu as bien fait de ne pas lui répondre. Il faut en savoir davantage sur lui, où il habite, ce qu'il fait, et sa famille aussi. La prochaine fois qu'il reviendra, suis-le. »
« Toute seule ?» se récria Maritza. « Dans la nuit ?»«
Oui, mais de loin, et tu feras en sorte qu'il ne te remarque pas. Voilà comment. File une pelote de laine, et quand tu le reverras, ne le fuis pas. Cherche sa compagnie, au contraire. » Attire-le à l'écart comme si tu avais pris le temps de réfléchir à sa question et que tu voulais lui répondre. Laisse-toi prendre par la taille et s'il essaie de t'embrasser, accepte ton baiser. Si, si, ne proteste pas, cela détournera son attention. Parce que toi, pendant ce temps, tu en profiteras pour attacher un bout de ta pelote à son veston. Ensuite, tu le suivras plus facilement. Elle avait son idée sur ce froid qui s'attachait à l'homme, sur la fascination qu'il exerçait.
mais elle se garda bien d'en souffler mot. Quant à Maritza, elle écouta le plan de sa tante en se demandant comment elle aurait assez de courage pour l'exécuter. À la veillée suivante, l'inconnu se montra plus pressant que d'habitude, plus dévorant d'affection, et cela persuada Maritza qu'elle ne pouvait plus reculer, qu'il lui fallait trouver en elle, à tout prix, l'énergie de jouer la comédie, pour mieux percer les mystères de cet homme qui la trompait peut-être. C'est pourquoi, malgré son émotion, elle accepta de s'isoler avec lui, d'être enlacée et embrassée puisqu'elle le désirait. Elle parvint même à s'abandonner entre ses bras. Il le fallait, n'est-ce pas ? Afin d'attacher, selon la tactique élaborée, un fil à la patte de son soupirant. Le stratagème fonctionna. Elle haletait, le cœur fou. Et l'homme pensait avec joie que son charme agissait, qu'il la tenait. Une fois son dispositif installé, Maritza fit semblant de s'échapper, comme une amoureuse qui ne veut pas trop céder une première fois, en portant discrètement sa pelote. Puis, quand le jeune homme se fut éloigné, elle le laissa prendre un peu d'avance et lui emboîta le pas, en gardant ses distances. Elle ne le suivit pas assez longtemps pour s'égarer, car à la sortie du village, il l'obliqua immédiatement sur la gauche. Cela effraya Maritza. Ce chemin, en effet, conduisait droit au cimetière. Malgré sa peur, elle continua néanmoins à le pister, car elle voulait en avoir le cœur net. Non, c'est trop tard pour renoncer, se disait-elle pour stimuler sa volonté. Elle eut peur de le perdre de vue et allongea le pas. Quand elle atteignit la grille, elle l'aperçut se faufiler entre les sépultures, puis se glisser sans une hésitation dans une tombe découverte, comme s'il rentrait dans sa demeure. Peu après, elle entendit le raclement de la pierre tombale qu'il retirait sur lui, à la manière d'une couverture. « Un mort-vivant !» Elle étouffa un cri et s'enfuit en courant. « Je m'en doutais, » avoua sa tante après lui avoir fait prendre un verre d'alcool de menthe. « C'est un vampire et tu ne pourras pas lui échapper. » Il n'y a qu'une seule chose à faire, lui résister, le provoquer pour l'obliger à révéler sa vraie nature au grand jour. Aussi, quand il reviendra et qu'il renouvellera sa demande, ne te défile pas, refuse carrément. Non, répond-lui, jamais, plutôt mourir que d'épouser une créature du diable. Bien sûr, tu n'en réchapperas pas, mais je ne t'abandonnerai pas. Maritza regardait sa tante avec des yeux éberlués. Elle avait cru trouver en elle une protectrice. Une alliée, et voilà qu'elle l'a précipitée dans la tombe. Mais non, la rassura la femme qui comprenait sa méprise. Ne crois pas que je vais t'offrir à un monstre. Je veux au contraire te ramener au monde. Je connais un moyen. J'ai tant de fois permis à la vie de s'effeuiller que je sais. Tu m'entends ? Je sais. Je connais le secret. Quand tu seras morte, je ferai le nécessaire pour te ramener vers la lumière. Aie confiance. Je te jure que tu ne le regretteras pas. On dit que lorsqu'une fille ressuscite après avoir été tuée par un vampire, elle revient, coiffée par la chance, pour déguster les fruits de la félicité. La perspective d'un tel avenir permit-elle à Maritza d'oublier les risques qu'elle courait ? Dès qu'elle fut à nouveau en présence du revenant, en tout cas, elle l'affronta avec bravoure et lui lança. « Je t'aimerai jamais. Tu me répugnes. Tu es une offense à la vie. Tue-moi plutôt. » Le vampire se fondit dans la nuit, sans protester ni menacer, et le lendemain, on découvrit Maritza morte dans son lit. En apprenant la nouvelle, le village se tassa sur lui-même comme un vieux qui se résigne. Chacun comprit la cause de ce décès et nul ne s'étonna. Fidèle à sa promesse, la tante ne quitta pas un seul instant la dépouille de sa nièce, veillant jour et nuit, attentive à tous ceux qui l'approchaient pour la bénir. Le jour des funérailles, alors qu'on s'apprêtait à sortir le cercueil pour le conduire au cimetière, elle s'interposa. Non, s'écria-t-elle de sa voix autoritaire de sage-femme. Pas par la porte, par la fenêtre. elle suspendit dans l'ouverture un bouquet de plantes sauvages dont elle seule connaissait le pouvoir et prononça au passage de la bière des formules sacrées dans une langue inconnue. Ensuite, la cérémonie se déroula selon la coutume. Le lendemain des funérailles, soit le troisième jour après la mort, une fleur magnifique s'épanouit sur le monticule de terre remuée, une fleur d'or parfumée qui embaumait toute l'enceinte du cimetière. La mère de Maritza, qui venait se recueillir sur la tombe de sa fille, la découvrit la première. Elle alerta aussitôt sa sœur, la sage-femme, puis la nouvelle se répandant, de petits groupes vinrent se rendre compte, qui crièrent au miracle, provoquant certains dimanches des rassemblements d'inconnus qui venaient s'extasier, prier, pleurer ou témoigner simplement de leur foi en la vie. Quel afflux d'espérance devant le souvenir de Maritza. L'émoi causé par ce prodige parvint même aux oreilles de l'empereur. Attentif aux événements qui enflammaient son peuple, il voulut se déplacer en personne pour juger. Il lui fut bien impossible de se rendre à l'évidence. Il fut bien obligé de se rendre à l'évidence. La fleur était réellement prodigieuse, une pure splendeur, et son parfum, un mélange de fruité, de légèreté et de fraîcheur. « Je la veux pour moi !» s'exclama-t-il avec le sang-gêne des puissants. Comme il était le maître incontestable des lois et que ses désirs ne se discutaient pas, il l'accueillit avec 1000 soins et l'emporta chez lui. Là, il la fit installer dans sa chambre, dans un vase de cristal, posé sur un meuble en bois de rose, juste en face de son lit. Il dormait seul, sa porte verrouillée de l'intérieur. Le premier soir, après avoir contemplé sa merveille, il ferma les yeux et s'endormit. Aussitôt, la fleur d'or s'étira comme si elle s'éveillait, sauta du vase et se métamorphosa en jeune fille. C'était Maritza. Maritza, débordante d'énergie, craquante comme une poupée en sucre, requinquée. Elle vit la chambre, l'affreux désordre qui y régnait. Tant de belles choses en vrac, un véritable bric-à-brac. Il faut dire que l'empereur ne savait pas ranger. Une mauvaise habitude acquise dans son enfance. Il était toujours escorté par une armée de serviteurs et de gouvernantes qui s'empressaient de faire la moindre tâche à sa place et l'empêchaient d'apprendre. Les sots. En plus, il était distrait, ce qui n'arrangeait rien. Et il avait une fâcheuse tendance à rapporter les objets auxquels il tenait dans ses appartements privés, pour oublier ensuite ce qu'il en avait fait. C'est ainsi que sa chambre était encombrée par une montagne de bibelots hétéroclites. On aurait dit l'arrière-boutique d'un brocanteur. Pire, une place de marché un jour de vide-grenier. Un tel désordre choqua Maritza, et elle se fit aussitôt un devoir de ranger. Elle y passa une bonne partie de la nuit, et quand elle eut terminé, elle se transforma en oiseau, se percha au pied du lit et se mit à chanter. Son plumage était d'or, sa mélodie d'azur. L'empereur qui l'entendait croyait qu'il rêvait. Un rêve de paix, où ses sujets n'avaient aucune raison de se plaindre de lui, vu qu'il leur avait distribué toutes ses richesses et qu'il avait renoncé pour eux à tous ses anciens privilèges, sans même les remplacer par des nouveaux. Sur le matin, l'oiseau, après avoir longtemps bercé le dormeur, redevint Maritza, avant de retrouver sa belle apparence de fleur. À peine trempait-elle dans son vase, que l'empereur ouvrit les yeux et découvrit l'incroyable. « Quoi ? » s'exclama-t-il en s'asseyant dans son lit. On a beau être distrait, un tel changement ne pouvait passer inaperçu, en effet. « Mais non, je ne dors pas !» répondit-il à haute voix à la question qui lui envahissait l'esprit. « Mais qui a pu ?» Il se précipita à sa porte pour vérifier si elle était toujours verrouillée. Elle était. « Ah, ça alors !» s'écria-t-il en croisant les bras. « C'est plus fort que de jouer au bouchon !» Il prit alors le temps d'examiner sa nouvelle chambre, où tout était parfaitement ordonné, classé, catalogué. Comme si cette manière d'organiser les choses pouvait lui révéler qui avait accompli ce travail inouï. Mais il examina en vain. « Qu'importe !» dit-il, en se préparant pour attaquer sa journée. « Je le saurai bien !» Le soir venu, quand il réintégra sa chambre, il verrouilla sa porte, puis il se mit au lit et resta éveillé derrière ses paupières closes. Comme l'inconnu n'a pu venir de l'extérieur, avait-il déduit, il a fallu qu'il soit déjà dans la place. Je le découvrirai. C'est pourquoi il guettait. Il n'attendit pas longtemps, car la fleur ne tarda pas à frémir dans son vase avant de sauter sur le parquet et de prendre l'apparence de Maritza. L'empereur, qui avait entrouvert les yeux, eut bien du mal à retenir un cri de surprise. La métamorphose tenait déjà du mystère, mais la créature qui surgissait de la fleur changeait cette énigme en miracle. Elle était belle comme une clairière dans le soleil couchant. Il suivit ce prodige qui avait le domicile dans sa chambre, qui allait et venait familièrement, passant en revue son travail de la veille, vérifiant que rien n'avait été dérangé, remettant un objet à sa place, ici, là. Puis, sa tournée d'inspection achevée, il la vit devenir oiseau d'or, s'envoler sur son pied de lit et entamer l'inimitable mélodie qu'il connaissait. « Alors c'est elle !» murmura-t-il, ébloui. « Elle a pris possession de mon intérieur. Elle a remis en ordre tout ce que j'étais incapable de changer, de ranger. Puis elle a chanté pour m'apaiser. » Il n'eut pas conscience du temps qui s'écoulait et les premières lueurs du matin pointaient déjà, lorsque soudain l'oiseau se mit à frémir pour se muer en jeune fille. « Elle va bientôt redevenir fleur, » pensa l'empereur. « Je vais la perdre. Vite, c'est le moment ou jamais. » Il rejeta ses couvertures, s'élança et la saisit par la taille au moment précis où elle entamait sa dernière métamorphose. « Oh non, » supplia-t-il, « ne t'en va pas, je t'en prie. Après ce grand ménage que tu as fait dans ma vie, reste, je ne peux plus me passer de toi. » Ses mains sur son corps, tièdes, caressantes, où s'était refermée la poigne sèche et glacée du vampire. « Penses-tu que tu pourrais m'aimer ?» demanda-t-il. « Pour moi, c'est acquis, mais pour toi, acceptes-tu d'être mon impératrice pour régner à mes côtés et en moi comme tu as déjà commencé ?» Devant cet homme qui rayonnait en lui parlant, elle n'eut besoin d'aucun conseil pour lui répondre oui. Après avoir accepté l'offre de l'empereur et s'être promise à son tour, les paroles de sa tante lui refèrent soudain à l'esprit et son serment de l'aider qu'elle avait respecté. « Et puis, j'ai eu le courage de mourir pour renaître, » songea-t-elle, « ce n'est pas rien. » Alors elle décida de raconter qui elle était et d'où elle venait à son futur mari pour qu'il sache tout et ne regrette jamais de l'avoir choisi. Elle n'oublia aucun détail, je puis vous l'assurer, car j'étais dans la chambre et je notais ses paroles au mot près à mesure qu'elle parlait. À la fin de son récit, je me suis endormie, exténuée d'avoir tout écrit et ne peux rien révéler des événements qui ont suivi.
This is Halloween, this is Halloween, pumpkin skin.